Bonjour à tous, je vous invite à tourner avec moi dans le psaume 25. Est-ce que j'ai dit une niaiserie? Ah! Est-ce que vous aimez ça? C'est tellement représentatif. Hein? C'est cute, puis c'est comme pas cute. Tu sais, c'est un peu entre les deux. C'est cute, tu veux juste pas que ce soit ta fille. Hein? Merci pour ceux qui ont prié pour nous pendant les vacances. On a passé du bon temps en vacances. On s'est reposé. Ça a été une bénédiction. On partait déjà, moi personnellement, je partais pas trop fatigué, vraiment. Et donc, ça a été, je dirais, une de mes périodes de vacances les plus reposantes, où j'étais vraiment là juste pour me changer les idées. Je partageais avec des gens cette semaine. Je m'en allais en voiture, puis à un moment donné, j'ai commencé à regarder les nuages. Puis là, je me suis demandé, ça faisait combien de temps que je n'avais pas remarqué qu'il y avait des nuages dans le ciel? Fait que, juste ça, là. Puis à un moment donné, on est allé visiter un moulin avec la famille. Puis après, les autres étaient en train de se promener, mais j'étais étendu dans l'herbe avec ma fille en dessous d'un pommier, je pense. Puis on faisait juste regarder les nuages. Puis j'étais juste content d'être avec ma petite fille comme ça, étendue dans l'herbe. Avoir le temps de faire ce genre de choses-là, c'est une belle bénédiction. Je suis content de vous retrouver. J'ai vu Geneviève tantôt. Wow! Hein, ça s'en vient. C'est pour quand, donc? Début décembre. Fait que Hans, maintenant, ça va être Pops. Pops. Hans, Pops. Je ne suis pas encore tout à fait faite à l'idée, là, mais ça va s'en venir. J'ai vu Caro aussi. Mais tu vas voir, quand tu le prends dans tes bras, tout est réglé. Tout est réglé, c'est automatique. J'ai vu Caro aussi, ça s'en vient bien, tout ça. C'est le fun. Content de vous retrouver. C'est vraiment de la joie pour nous. J'avais quelques annonces pour vous. Je veux juste mentionner par rapport aux cours qui ont été annoncés tout à l'heure. Ils étaient placés dans l'ordre dans lequel vous devriez les suivre. D'accord? Notre travail à nous, comme pasteurs, comme bergers, c'est d'équiper les chrétiens, d'équiper les saints, d'équiper l'Assemblée pour que l'Église fasse l'œuvre du ministère. Bien, c'est une des manières dont nous travaillons à vous équiper. D'accord? C'est une des manières dont nous nous appliquons à vous équiper. Et donc, vous devriez prendre ces cours-là dans cet ordre-là. Commencer par se faire baptiser, s'associer, s'identifier à Jésus-Christ. Ensuite de ça, se joindre à une assemblée. Comme Michel l'a dit, ce qui fait la distinction pour nous entre un visiteur, on est tellement content d'avoir des visiteurs, c'est génial, mais quand est-ce qu'un visiteur me dit « Toi, j'aimerais que tu sois mon berger » lorsqu'il devient membre de cette assemblée. C'est à partir de ce moment-là que dans notre esprit, on dit, « Ah, le Seigneur m'a donné une nouvelle âme à paître, à m'inquiéter, à prier, à veiller sur elle. » C'est la personne qui devient membre de l'Église ici, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on s'équipe pour annoncer l'Évangile. On veut aller proclamer l'Évangile. Donc, les cours sont placés dans cet ordre. Il y a deux cours qui ont des frais, puis j'ai senti que Michel avait quand même une petite gêne dans le visage. Fait que je voudrais juste clarifier. Le cours d'évangélisation, ça va être avec le matériel d'évangélisation explosive. C'est du matériel qui est utilisé depuis 20 ans à peu près dans le monde, qui a été renouvelé constamment, adapté, et Alexandre a étudié aussi sur ce sujet-là. Et donc, le matériel coûte quelque chose. C'est tout simplement ça. On a des plans de financement sans intérêt sur 6 mois, si vous voulez. Alors, vous avez juste à vous rendre à la table, puis dire, je ne peux pas débourser un montant comme ça tout de suite. Je peux-tu te faire 5 chèques, 6 chèques? 25 chèques, il n'y a pas de problème, d'accord? La même chose pour l'autre cours après. Le livre dont je vais me servir, c'est le livre de G.I. Packer, « Connaître Dieu », un des premiers livres que j'ai lus lorsque je me suis converti. En fait, c'est la doctrine de Dieu. Qui est Dieu? Quels sont ses attributs? Quelles sont ses qualités? Et il le fait dans une manière dans un sens méditatif, ça veut dire que ce n'est pas juste de l'information, mais qu'est-ce que ça vient changer dans ma vie, ça? Qu'est-ce que ça vient changer dans ma manière de comprendre Dieu, de connaître Dieu? Et donc, c'est simplement qu'on aimerait que vous ayez le livre dans votre bibliothèque, que vous puissiez le lire. On en a quelques-uns ici à prêter, mais il va falloir en acheter un grand nombre pour que ça se retrouve entre vos mains, que vous puissiez l'annoter. Vous allez relire ce livre-là, vous allez le prêter à d'autres personnes. Et donc, c'est tout simplement pour cette raison-là qu'il y a des frais. Une exhortation pour l'Assemblée. J'aimerais ça vous exhorter à être à l'heure le dimanche matin. D'accord? Vous n'allez pas au travail. Si vous alliez au travail, je comprendrais que ça ne vous tente pas d'y aller, tu sais, puis peut-être ça traîne un peu. Vous n'allez pas au travail, vous venez adorer Dieu. Alors, je veux vous encourager. On commence à 9h30 dimanche prochain. Le dimanche suivant, on commence à 9h. Et cette année, même pendant la deuxième partie qui est à 10h15, les enfants vont être avec nous pour 15 minutes environ. D'accord? Là, on est entre nous, les enfants sont partis. Vos enfants vont vous accompagner, vont être assis à côté de vous et vont vous regarder adorer Dieu pendant 15 minutes. Soyez à l'heure, dites-leur que Dieu est ce qu'il y a de plus important dans votre vie. De venir vous assembler en église, de venir l'adorer, soyez à l'heure, soyez présent à l'heure, avec le cœur prêt à adorer, afin que vos chants soient sentis par Dieu, mais par vos enfants qui vont être à côté de vous. Amen. D'accord? Alors, la semaine prochaine, c'est à 9h30. La semaine suivante, c'est à 9h. On va avoir un matin spécial avec un dévoilement d'une nouvelle salle qu'on est en train de préparer pour les enfants. Vos enfants vont avoir hâte d'arriver ici. Ce sera à vous de les amener après ça à l'heure pour qu'ils puissent venir louer le Seigneur avec nous. Quelques petites annonces, deux annonces tristes et en même temps des requêtes de prière. Si vous êtes sur notre liste d'envoi, vous avez déjà reçu ça cette semaine. Notre sœur Joanne, son père était très malade et donc son père est décédé cette semaine, Joanne Provencher-Papillon, et on voudrait prier pour elle. Notre frère aussi André Dubreuil a perdu sa maman et donc on voudrait prier pour ces deux personnes. Et j'aimerais qu'on puisse le faire tout de suite, d'accord? Je vais prier en même temps pour le ministère de Bouffe pour tous. Notre banque alimentaire devant des défis, des décisions, et on veut demander la sagesse de Dieu pour que Dieu puisse diriger. Oui, Bertrand. Brièvement, oui. Oui, vas-y. Que Dieu dirige, que Dieu dirige dans tout ça. Alors, on va prier pour ces deux frères et sœurs qui sont dans le deuil. On va les amener devant le Seigneur. On va prier pour Bouffe pour tous, pour que Dieu donne sa direction. C'est vraiment ça notre quête. Et on va prier pour que Dieu prépare nos cœurs à recevoir sa parole. Éternel, nous avons chanté tes louanges. Nous avons dit ta grandeur, Seigneur. Nous avons parlé de ce Dieu souverain qui règne dans les cieux et sur la terre. Nous avons vu, Seigneur, combien tu as pris soin de ce roi en faisant des choses impossibles, inexplicables scientifiquement, en faisant des miracles pour le bénir, Seigneur. Mais ce matin, nous voulons t'amener à notre sœur Joanne, notre frère André, qui tous les deux passent par le deuil, Seigneur. Nous voulons t'amener leur cœur et te demander de venir étendre ta main sur eux, Seigneur. Viens, Seigneur, leur donner ta consolation. Seigneur, viens leur donner une paix et un repos au milieu de la tristesse. Comme toi seul sais le faire. Père, on te prie pour le témoignage qu'il y aura dans la famille autour de tout ça. Viens, Seigneur, prendre ces circonstances tragiques afin d'amener des discussions sur l'éternité. Et viens, Seigneur, sauver des âmes dans ces moments difficiles, même. Père, on aimerait t'amener notre banque alimentaire à Bouffe pour tous, qui descend à tellement de familles, Seigneur. Et ça fait déjà 2-3 ans, il y a toutes sortes de questionnements sur l'avenir, l'orientation, comment s'y prendre. Et il y a une croisée de chemin maintenant qui est devant nous. Et on aimerait continuer à faire du bien, à bénir les gens qui sont dans le besoin ici à Longueuil, un peu partout sur la rive sud, desservir des églises qui veulent continuer à aider. Alors, je veux te demander, Père, de donner ta sagesse et ta direction. Interviens afin, Seigneur, que ta volonté soit manifeste, qu'elle soit claire. Viens, Seigneur, et dirige toutes ces personnes qui mettent tellement de cœur à bâtir ce ministère. Viens donner ta direction. Père, nous sommes là devant toi ce matin, les cœurs disposés à entendre ta parole. Nous sommes, Seigneur, pécheurs. Nous sommes humains, limités, comme on l'a dit avec les enfants tout à l'heure. Et nous avons besoin constamment, à travers toutes sortes de situations dans nos vies, nous avons besoin, Seigneur, qu'un conseiller divin soit là et nous guide dans les situations que nous traversons. J'aimerais te demander ta grâce sur ma bouche, sur mon cœur, afin que ce que je vais dire puisse être clair et édifiant, pratique et concret. Et Seigneur, que ce soit ta parole que nous entendions ce matin, non celle d'un homme. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Psaume 25, on vient de terminer, juste avant de partir, j'ai terminé Matthieu. Et quelqu'un qui peut me dire, j'avais essayé de résumer les 5 derniers versets en 2 éléments. Je vous ai dit, si vous retenez ces 2 choses-là, jusqu'à la fin du monde, on est en affaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient, les 5 derniers versets de Matthieu? Alors, vous avez tous un devoir cette semaine. C'est sur le site Internet de l'Église. Vous pouvez aller écouter le MP3. On a dit la suprématie, la grandeur absolue de Jésus-Christ et la mission qui nous a été confiée. On a terminé Matthieu en disant, allons-y, c'est le temps d'entrer dans cette mission, c'est le temps de foncer, c'est le temps d'aller en avant. Et si on peut simplement retenir la suprématie, la gloire, la grandeur absolue de Jésus-Christ, c'est à lui que tout pouvoir a été confié, dans les cieux et sur la terre, et la mission qui nous a été confiée, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, si on peut retenir ces 2 choses-là, jusqu'à la fin du monde. Alors, j'aimerais ça vous encourager, si vous avez manqué cette prédication, allez l'écouter, s'il vous plaît, allez chercher le CD, allez l'écouter sur le site Internet, si vous voulez savoir où sont nos cœurs pour la prochaine année, pour les prochaines années, voici ce à quoi on va s'appliquer dans cette assemblée. Cherchez la gloire absolue de Jésus-Christ dans nos vies et cherchez à nous appliquer à cette mission qui nous a été confiée de faire des disciples. Et on veut passer en deuxième vitesse. Cette assemblée est déjà sérieusement engagée dans la mission. Nous formons des disciples de Jésus-Christ. J'ai eu la joie cet été pendant mes vacances d'apprendre que plusieurs ont pris la décision de se faire baptiser. C'est le premier pas concret après une profession de foi pour dire « je suis un disciple de Jésus-Christ ». Je vais me faire baptiser pas au nom d'Allah, pas au nom de Krishna, au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, plusieurs personnes, jeunes et moins jeunes, j'ai appris ça, ont pris la décision pendant l'été de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est de la formation de disciples. J'ai entendu parler de 2 sœurs qui vont commencer à suivre d'autres dames dans la formation de disciples. On a déjà une 50aine de personnes qui sont engagées activement dans la formation de disciples. Des gens qui font du coaching, ils se rassemblent à 3-4 personnes à toutes les 2 semaines, assidûment, sérieusement, pour grandir, pour se lancer des défis, pour avancer, connaître la parole de Dieu, mais l'appliquer aussi dans nos vies. Et là, pendant les vacances, j'ai appris que 2 autres sœurs sont en train de s'engager là-dedans, et donc il va y avoir 5 dames qui vont être suivies à travers cela. Ça, c'est de la joie pour moi. On est déjà sérieusement engagé dans la formation de disciples, mais on veut passer à la deuxième vitesse. Et c'était vraiment l'esprit de cette dernière prédication dans Matthieu 28. Ce matin, j'avais à cœur de vous apporter un message pratique, concret, qui va s'appliquer probablement à la majorité d'entre nous, sinon à chacun d'entre nous. Et pour les prochaines semaines, je ne vais pas commencer tout de suite un livre. J'ai quelques sujets que je vais adresser avec l'Église. Et donc, pendant quelques semaines, c'est ce que je vais faire. En fin de semaine prochaine, je vais juste vous le mentionner. C'est notre dernière petite fin de semaine d'escapade en famille. Pendant la fête du travail, on va être à Rivière-du-Loup. Et donc, Patrice Major va venir apporter un message sur Éphésiens 5. Moi, je vais prêcher là-bas à Rivière-du-Loup. Et après ça, on repart pour de bon ensemble. Mais ce matin, j'avais à cœur d'apporter un sujet pratique, quelque chose qui s'applique à chacun d'entre nous. Au cours de la dernière semaine et des dernières semaines, j'ai parlé avec plein de personnes qui vivent toutes sortes de situations. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Ce sont des situations très, très, très différentes les unes des autres, d'accord? Mais en même temps, ce sont des situations qui amènent leur lot de pression, leur lot d'inquiétude, leur lot d'incertitude. Et donc, avant de lire le psaume 25, je vais juste vous partager quelques situations auxquelles j'ai été exposé cette semaine, dans les semaines précédentes. Au cours des dernières semaines, j'ai jasé avec des gens qui commencent un nouvel emploi. Une personne qui commence un nouvel emploi vit des questionnements, des doutes, des interrogations. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je me suis engagé à la bonne place? Une autre personne qui n'est pas heureuse dans son emploi est en train de se demander, est-ce que je dois quitter? Donc, la situation qu'elle vit, c'est pas heureux au travail. Est-ce que je dois changer d'emploi? Est-ce que je dois quitter? Où est-ce que je devrais m'orienter? Une sœur me demandait conseil à savoir comment choisir à quelle église sa famille et elle devraient s'attacher. Comment est-ce que je vais prendre cette décision-là? À quelle église je dois m'attacher? Un autre soupire après le mariage et se demande s'il va trouver un jour l'amour de sa vie. C'est la situation qu'il vit. Est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie un jour? Est-ce que je vais réussir à me marier? Et il y a un soupir après ça. Une autre personne vit un mariage difficile et malheureuse dans son mariage et se demande quoi faire. Voilà sa situation. D'autres entrent au cégep, à l'université et vont devoir établir de nouvelles relations, s'adapter à une nouvelle réalité. Vous voyez, ce sont toutes des situations différentes. Un autre a des problèmes de santé et vit de l'insécurité, s'inquiète pour son avenir. Un autre se demande où s'impliquer dans l'Église pour servir. Un autre s'il veut se faire baptiser maintenant. Est en train de se questionner par rapport à ça. Une autre personne vit une relation très difficile avec ses parents plus âgés, n'a plus le goût de s'investir dans cette relation destructrice. Un autre est au milieu d'un conflit qui dure depuis beaucoup trop longtemps, ne sait plus où donner de la tête. Et je pourrais continuer comme ça, la liste est longue. Ce sont toutes des situations auxquelles j'ai été exposé et j'étais en vacances. D'accord? Donc, vous vivez probablement quelques-unes de ces situations-là vous-même. Où vous avez vos propres situations. Et je pensais aussi à l'automne qui s'en vient avec l'activité qui reprend et il y a un rythme qui vient et on va entrer dans des situations à cause de cela qui vont venir mettre de la pression sur nous, qui vont amener leur lot d'incertitudes, leur lot d'inquiétudes, de questionnements, de stress. Comment est-ce qu'on navigue à travers toutes ces situations? Et ce matin, je vais vous proposer David comme modèle. Ceux qui connaissent David un peu, vous savez que David a vécu des situations pour le moins stressantes. Et j'ai pensé prendre David comme modèle pour trois raisons. Il était un homme de Dieu. Quand c'était un homme de Dieu, il savait se tourner vers Dieu. Il savait s'en remettre à Dieu. Deuxième raison, il a vécu beaucoup de situations stressantes et difficiles. Ce n'est pas un homme qui vivait sur une autre planète, qui claquait des doigts et tout lui réussissait. Non, c'est un homme qui a eu son lot de souffrances. Troisième raison, il était un homme faible et pécheur comme vous et moi. On regarde à David et on dit, waouh, mais lisez les psaumes, c'est un homme comme vous et moi. Et dans le psaume 25, cela sort énormément. On va aller voir David, comment est-ce qu'il vit cette situation où il y a du stress, il y a de la pression, il y a de l'inquiétude, de la confusion, il ne sait pas comment se diriger et comment est-ce qu'il gère cette situation. Tournez avec moi dans le psaume 25, je vais vous le lire brièvement. Psaume 25 de David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi, aie pitié de moi. Car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus. Quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. David vivait des situations qui n'étaient pas évidentes. Pour ceux qui aiment savoir où je m'en vais, voici le plan de mon message. C'est assez simple. On va parler d'une situation que David vivait. Cette situation-là a produit en lui toute une gamme d'émotions. D'accord? Il vivait une situation et nous vivons des situations qui nous amènent à vivre toutes sortes d'émotions. On va voir ensemble ce que David vivait comme émotion ici. Devant tout ce qu'il vivait, ses états d'âme, ses émotions, David avait une décision à prendre. Situation, émotion, décision. Il avait une décision à prendre face à tout ce qu'il était en train de vivre intérieurement. Et ensuite, sur la base de cette décision, David a passé à l'action. C'est assez simple, hein? Situation, émotion, décision, action. Et appliquez-la à vos vies au fur et à mesure qu'on va avancer. Tout à l'heure, j'ai donné des exemples de situations que nous traversons. Toutes sortes de situations vraiment différentes. Certaines d'entre elles vont amener juste un peu de stress, un peu de pression, un peu de questionnement. D'autres vont mettre énormément de pression, vont nous amener à se remettre en question, à avoir des doutes. Et d'autres vont être franchement douloureuses. Il y a des gens qui vivent actuellement, on a prié tout à l'heure pour des personnes dans le deuil, des situations extrêmement douloureuses, franchement difficiles à vivre. Mais nous vivons tous des situations, et si ce n'est pas le cas, attendez un peu, prenez des notes ce matin, ça s'en vient, je vous l'assure. Vous allez traverser des situations qui ne seront pas nécessairement évidentes. Regardons la situation de David, juste un instant. David a vécu toutes sortes de situations difficiles, on le sait, c'était un homme, c'était un roi avant d'être un roi, il avait été pourchassé pendant des années. C'était un homme de politique, on pourrait dire, parce qu'il était appelé à diriger le peuple. Et donc, David avait des ennemis. Dans cette situation qu'il est en train d'énoncer ici, David avait des ennemis qui s'en prenaient à sa réputation. Dès le début, on le voit. Des gens qui se réjouissaient, qui le regardaient aller, qui travaillaient ou qui souhaitaient qu'il se plante, comme on dit en québécois. Et donc, David avait des ennemis. David était dans le domaine politique, il est en train de diriger un pays. Et donc, il y avait toutes sortes de manigances, de magouilles autour de lui, des gens qui faisaient des alliances pour le faire tomber. Et il était constamment en train de regarder autour de lui, qui est avec moi, qui est contre moi, qui est en train de travailler quelque chose dans mon dos. Ça, c'est le genre de situation que David vivait. Énormément de pression, je peux vous l'assurer. David vivait une situation qui l'amenait à avoir des inquiétudes, qui l'amenait à avoir des doutes. Il avait énormément de pression. Et cela produisait en lui toutes sortes d'états d'âme. Voyez-vous, ces pressions-là qu'il vivait l'amenaient à vivre des émotions, l'amenaient à vivre toutes sortes d'états d'âme, même de la confusion. Et en ceci, David nous ressemble, même si pour la majorité d'entre nous, on ne vivra peut-être pas des situations aussi difficiles que David cet automne. Mais certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre des situations aussi difficiles sur le plan humain que ce que David a vécu. Pas besoin d'être un roi et d'être poursuivi pour souffrir profondément au fond de notre cœur, dans notre âme. Et d'autres vont vivre des situations moins difficiles. Mais ça, c'était la situation que David était en train de traverser et ça produisait en lui toutes sortes d'émotions. Regardez dans le passage différentes émotions que David vit. Premièrement, la peur. David avait peur. Les situations qu'il était en train de vivre l'amenaient à vivre de la peur. Regardez le verset 2. « Mon Dieu, en toi, je me confie que je ne sois pas couvert de honte. » David avait peur que la situation qu'il était en train de vivre tourne à sa honte. Il avait peur de ne pas bien s'en sortir, que ceux qui complotaient contre lui aient le déçu sur lui et que la situation tourne à sa honte. Et nous vivons des situations, nous regardons les enjeux, on dit « voici comment ça pourrait se terminer, je pourrais perdre mon travail ». Avoir de la difficulté à pourvoir aux besoins de ma famille. Oui, mais j'ai investi tellement d'énergie dans ce travail-là et ça pourrait terminer à ma honte. Je ne sais pas comment je vais me relever de ça. Et des fois, c'est ça, on a peur que la situation tourne à notre honte. Des conflits personnels. On a peur que ça tourne à notre honte. Des situations de couple pas évidentes. Et on a peur que ça tourne à notre honte. On a peur de sortir de là et de se dire, ben voilà, je suis un échec. Ça a été un échec. David avait peur de se retrouver dans une situation honteuse. D'accord? Ce n'est pas juste qu'il craignait pour sa vie. Oui. Ouais, on va voir que David, il va vivre un crescendo dans ses peurs. Vous allez voir que ça va pas mal loin. Ça va pas mal loin. Puis à un certain moment donné, on peut commencer à déraisonner même. Mais ça commence avec cette crainte de se retrouver dans une situation honteuse. Il a peur que la situation tourne à sa honte et on voit très bien ça au verset 2. Regardez le verset 15 qu'il dit. Il dit « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel qui fera sortir mes pieds du filet. » David a peur parce qu'il se sent piégé. Dans son cas, ça peut être tout à fait littéral. Il y a des gens qui organisaient des choses pour le piéger. Certains d'entre vous m'avaient partagé des situations dans la dernière année où littéralement, il y a des gens qui travaillent contre vous pour vous piéger. Mais on peut tous se retrouver dans des situations où on se sent piégé. On se sent prisonnier. On se sent coincé. David sent qu'il est pris dans un filet. Et il ne sait pas comment est-ce qu'il va se sortir de là. Il ne sait pas comment s'extraire de cette situation-là. Il ne sait pas où donner de la tête pour sortir de là. Il se sent pris au piège par la situation qu'il est en train de vivre. Dans son cas, c'est vraiment des gens qui sont en train d'organiser des choses. Mais ça peut être plus simple que ça aussi. Ça peut être tout simplement une situation économique où je me sens littéralement piégé. Je ne sais pas comment me sortir de cette situation-là. Je suis pris au piège de l'engrenage, des dépenses, des enjeux, de ce que j'ai à honorer, des engagements que j'ai pris. Vous voyez, il y a toutes sortes de filets, toutes sortes de situations où on peut se sentir piégé comme David qui se sent coincé dans un filet. Il est pris là. Et ça génère de la peur. Ça génère de l'inquiétude parce qu'il ne sait pas comment sortir de là. Les hommes, on est mindés comme ça. On cherche des solutions. Il arrive une situation et puis la première question qu'on se pose, c'est spécialement les hommes. On est fait comme ça, on cherche la solution. C'est lorsque la solution n'apparaît pas. Il y a une situation, je suis en train de vivre quelque chose au travail, il n'y a pas de solution qui apparaît. Dans mon foyer, avec mes enfants, je vis quelque chose, il n'y a pas de solution qui apparaît. J'ai un ministère dans l'Église, on n'arrive pas à avancer, je ne vois pas la solution. Et c'est là que l'inquiétude peut entrer en jeu. Je me sens coincé, je ne sais pas où donner de la tête. David se sent prisonnier, il se sent coincé dans un filet et ça produit de la peur en lui. Regardez le verset 17. David vit de l'angoisse dans son cœur. Il a un sentiment de détresse. Verset 17. Les angoisses de mon cœur augmentent. Vous savez, sur l'échelle des peurs, on peut parler d'inquiétude. Des inquiétudes qui deviennent des fois des peurs. Ça va produire de l'anxiété en nous, mais là, on parle d'angoisse ici. Et si vous n'avez jamais vécu ça, vous m'en reparlerez le jour où vous allez le vivre, de l'angoisse. Ça devient totalement irrationnel. Tu es saisi à l'intérieur. Les peurs t'omnubilent. Tu n'es plus capable de penser clair. Et donc, David est rendu là dans l'échelle de ses craintes, de ses peurs. On ne parle plus d'inquiétude, on ne parle plus de peur, on ne parle plus seulement d'anxiété. On est en train de parler d'angoisse ici. Verset 17, « Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. » C'est quoi la détresse? Je ne sais pas comment je vais y arriver. Sors-moi, je suis dans la détresse. Voici l'état du cœur de David. Il vit une situation qui amène chez lui toutes sortes d'émotions. Une de ces émotions-là, c'est la peur. Et sur l'échelle de ce qu'on peut vivre comme peur, David est au maximum ici. Là. Après ça, certains vont aller commettre le suicide. D'accord? On est au maximum de ce qu'un être humain peut vivre comme peur. David vivait de la peur. C'était une des émotions qu'il vivait. Il vivait de la culpabilité. David vit de la culpabilité. Certaines situations vont nous amener à avoir des doutes sur nous-mêmes. Parfois, des situations vont révéler nos fautes du passé, nos péchés. Parfois, d'anciens péchés vont faire surface. On se retrouve dans une situation, on est en train de chercher des solutions, mais lorsqu'on commence à voir ce qui est en train de se passer, il y a cette petite voix qui nous dit « Ouais, mais mon ami, c'est toi qui t'es mis là. Tu te retrouves là, mais je veux dire, t'es pas sans faute là-dedans. » Et là, on commence à vivre de la culpabilité parce qu'on sait qu'on est en partie la cause de notre situation. Dans tous les domaines, hein, au niveau relationnel, au niveau des finances, des fois même au niveau de la santé, on dit, bon, il y a des choses qui nous tombent dessus au niveau de la santé. Bon, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne peux rien faire, c'est une carie, même si je me brossais les dents. Tu sais. Mais il y en a d'autres où tu te dis, ouais, si j'avais été un petit peu plus sérieux, peut-être. Vous voyez, et là, il y a de la culpabilité qui entre en jeu. Il y a des situations dans lesquelles on se retrouve, il y a de la culpabilité qui vient, et des fois, ça révèle vraiment des péchés passés. Ça révèle vraiment des fautes. Je suis vraiment coupable. D'autres fois, c'est simplement la pression. David dit au verset 7, regardez le verset 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. David vit une situation actuelle et dans son bouleversement, dans son questionnement, il remonte dans le temps de sa jeunesse et il dit, tout ce qu'il est en train de dire, il dit, « Traite-moi pas selon ce que je mérite. » C'est ça qu'il dit. « Éternel, tu sais ce que j'ai fait dans le passé, n'en tiens pas compte dans le traitement que tu vas me donner. Oublie ça, ne considère pas ça parce qu'autrement je suis fait. Ne me traite pas selon ce que je mérite. » C'est ça qu'il est en train de dire ici. Mais non seulement c'est faute du passé, mais il dit « mes transgressions ». David sait que si Dieu le traite seulement selon ce qu'il mérite, peut-être qu'il ne tirera pas de ce pétrin ou de cette situation qu'il est en train de vivre. Et donc, il vit de la culpabilité. Il dit au verset suivant, « Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. » Il invoque la personne de Dieu pour dire, « Dieu, toi, t'es bon. Là. Rappelle-toi que t'es bon. Traite-moi selon ta bonté, pas selon mon passé, pas selon mon histoire. En d'autres mots, ne me donne pas ce que je mérite. » Au verset 18, il dit, « Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. » Il y a des situations que vous vivez peut-être actuellement ou qu'on va vivre cet automne et certaines d'entre elles vont amener un lot de culpabilité qui va venir avec. Parfois, cette culpabilité-là est due au fait qu'il y a des péchés passés, il y a des fautes et dans un sens, on est en train de récolter ce qu'on a semé. D'accord? Et là, on dit, « Seigneur, j'ai besoin que tu fasses la différence ici parce que si tu me laisses juste aller aux conséquences de mes fautes, je ne m'en sortirai pas. » D'autres fois, ce n'est pas ça. D'autres fois, il y a de la culpabilité, de la pression qui vient parce que, en fin de compte, en bout de ligne, je vais être seul à devoir prendre les décisions. Alors, David vit de la peur, vit de la culpabilité, mais il vit aussi de la solitude et de la confusion. David se sent seul dans cette situation. Il se sent abandonné. Et il arrive parfois dans des situations qu'on est en train de vivre où on se sent seul. David dit au verset 16, « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. » Maintenant, si vous connaissez bien l'histoire de David, David a toujours eu auprès de lui des hommes forts. David avait des hommes puissants autour de lui. Il a toujours eu quelques appuis extraordinaires autour de lui. Alors, c'est vrai qu'il pouvait regarder puis dire, « Ceux-là m'abandonnent, ceux-là m'abandonnent. » Mais il y a toujours eu des hommes forts autour de lui. Mais David est en train de considérer sa situation et il se sent seul. Et une des raisons pour lesquelles il se sent seul, c'est qu'en définitive, les décisions qu'il a à prendre reposent sur ses épaules. Alors, vous savez, des fois, on vit des situations, on a beau avoir les meilleurs amis du monde autour de nous, à qui on va pouvoir partager, on va pouvoir se confier. Je ne suis pas seul parce que je peux partager ce que je vis, je peux ouvrir mon cœur. Ces gens-là, même dans la foi, vont venir prier avec moi. C'est génial. Mais le soir, quand je me couche dans mon lit, et si je suis marié, même lorsque mon épouse s'endort à côté de moi, je suis seul avec moi-même et avec mon Dieu. Et il y a ce sentiment de solitude qui est normal parce que, en bout de ligne, c'est ma décision. En bout de ligne, c'est moi qui vais devoir faire face. En bout de ligne, c'est moi qui vais devoir prendre une décision. Qu'est-ce que je fais avec cette situation-là qui est devant moi? Et donc, il y a un sentiment de solitude qui vient là. David vit ce sentiment de solitude. Il se sent seul dans sa situation, certainement parce qu'il était vraiment abandonné, mais en même temps parce qu'il avait cette pression qui était sur ses épaules. Et les situations auxquelles nous faisons face, à un moment ou à un autre, peuvent amener ce sentiment de solitude. Je suis seul avec la décision, je suis seul à devoir gérer cette situation. C'est ce que David vivait ici. Et non seulement il vivait cela, mais c'est allé encore plus loin parce que des fois, les situations amènent de la confusion. Écoutez, David est devant une situation, il vit de la peur. On a vu que sur l'échelle des peurs, on est rendu au maximum de ce qui est possible de vivre. On parle d'angoisse, on parle de détresse. On a vu que David vit de la culpabilité. On a vu que David se sent seul. Mais quand tu vis toutes ces choses-là, à un certain moment donné, tu en viens à vivre de la confusion. Tu peux te sentir confus. Tu ne sais pas où donner de la tête. David est confus. Il a des ennemis qui le poursuivent. Il ne sait pas comment gérer tout ça. Il sait qu'il y a des manigances contre lui et il ne sait plus où donner de la tête. Et là, on parle de David. David était un homme selon le cœur de Dieu. David était empreint de la pensée de Dieu. Il avait la parole de Dieu dans son cœur. David a écrit une bonne partie des psaumes. Vous comprenez? David savait comment Dieu pense. David savait ce qui est la bonne chose à faire normalement. Et pourtant, cet homme-là est confus. Et nous voyons sa confusion au verset 4 et 5. David dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. » Oh, mais David, tu connais toute la loi de Dieu, tu connais les voies de Dieu, tu sais ce que tu as à faire. Oui, mais je ne sais pas comment m'en sortir ici. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. David est confus, il a besoin qu'un guide intervienne dans sa vie, il a besoin de comprendre la direction de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire ici pour m'en sortir? Il est confus. Et donc, il y a des situations que nous vivons qui vont amener chez nous de la peur, des inquiétudes, parfois certaines culpabilités, parfois un sentiment de solitude et de la confusion. On ne sait plus où donner de la tête. Et tu cherches dans ton cœur et tu dis, qu'est-ce que je dois faire là? Ce n'est pas une question simple, ça demande le conseil de Dieu. David est confus dans sa situation. Il vit de la confusion dans son cœur. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on vit des situations semblables? Et plusieurs d'entre vous, vous en vivez actuellement. Il y a de la peur, il y a de l'inquiétude. Pensez à ce qui vous préoccupait quand vous êtes arrivé ici ce matin. Qu'est-ce qui a préoccupé le plus? Qu'est-ce qui a occupé le plus vos pensées cette semaine? Des peurs, des inquiétudes. Je ne sais pas quelle décision je dois prendre. Je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Il y a un conflit qui perdure, n'importe quoi, vous comprenez? Et il y a de la confusion, de la culpabilité aussi, parce que j'ai fait des erreurs. J'ai été coupable, j'ai mal fait, puis je suis en train de payer pour. Puis je ne sais pas où je m'en vais avec ça. David est confus dans la situation qu'il vit. Voyez-vous, ça s'applique à toutes les situations qu'on peut traverser qui produisent en nous de la pression, du stress, des inquiétudes. Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Situation, émotion, état d'âme. Décision. Parce que je me trouve à un carrefour, je me trouve à une fourche à ce moment-là. Quand je vis toutes ces choses-là, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je vais réagir simplement sur mes impulsions? Et pensez à David. Pensez à David. David, c'était un homme de guerre. David, une des questions qu'il avait dans sa tête, certainement, c'est est-ce que je joue le jeu qu'il joue? Mes ennemis, c'est pas compliqué, hein? Un peu d'argent, bien placé, un assassinat, c'est réglé. Est-ce que je joue le jeu? Est-ce que je suis mes impulsions? Est-ce que je prends les choses en main? Est-ce que je vais faire les choses à ma manière? Cette situation-là produit de la pression sur moi. Il y a des gens qui se comportent de telle ou telle manière. Je prends les choses en main. Je vais régler ça à ma manière. Ou est-ce que je vais me tourner vers Dieu? Et David a une décision à prendre. Est-ce qu'il va s'en remettre à Dieu ou est-ce qu'il va prendre les choses en main et régler les choses selon ses impulsions du moment? Comme les hommes qui ne connaissent pas Dieu et femmes qui ne connaissent pas Dieu vont régler les choses. Comme les gens qui ne connaissent pas le conseil de Dieu vont faire les choses. David est à une fourche. Il a une décision à prendre. Et s'il ne prend pas une décision, qu'est-ce qui va se passer? Il va suivre ses impulsions. C'est un homme comme nous, hein? Il le confesse constamment dans le psaume. C'est un pécheur. Et donc, il serait tenté de régler les choses par lui-même. Et si je ne prends pas une décision, quand je me retrouve dans ces situations qui produisent de la confusion, des inquiétudes, des peurs, de la culpabilité, toutes sortes de choses, si je ne prends pas une décision, je vais suivre naturellement mes impulsions. Je vais faire la première chose, je vais agir comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne suivent pas le conseil de Dieu. David a une décision à prendre. David est un homme selon Dieu, c'est pour ça qu'on le prend comme modèle ce matin. Et David prend la décision de se confier en Dieu, de faire confiance à Dieu, de s'en remettre à lui. Et en fait, on l'avait au premier verset, David dit, « Éternel, j'élève mon âme, j'élève à toi mon âme, je me tourne vers toi, je me confie en toi. » David a pris la décision qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu prend. Il a décidé de se confier en Dieu à ce moment-là. Il s'est arrêté et il s'est tourné vers Dieu. Il a élevé son âme à Dieu. parce que David est un homme de Dieu. Après tout, il dit « L'Éternel est le Dieu de mon salut. » Il est mon sauveur, pas juste dans les moments critiques, il est mon sauveur en toutes choses. Il est toujours mon espérance. Et nous qui vivons après la venue de Jésus-Christ, on peut dire « Jésus-Christ est mon sauveur. Il est le Dieu de mon salut. » C'est vers lui que je me suis tourné pour mon salut spirituel et c'est vers lui que je me tourne en toutes circonstances. Mais David a dû prendre cette décision de se confier en Dieu, de faire confiance à Dieu, de ne pas suivre le conseil des méchants, mais de suivre le conseil de Dieu. Et cela demandait une décision. Être chrétien implique de se tourner vers Dieu, de se tourner vers Jésus-Christ en toute situation. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est que quelle que soit la situation que je suis en train de vivre, je me confie en Jésus-Christ non seulement pour mon salut éternel, mais comme guide, comme conseiller. Alors, quelle est la situation que tu es en train de vivre actuellement? Est-ce que Christ est ton guide? Est-ce que sa parole est ton guide? Est-ce que tu as pris cette décision? Il y a une tentation qui se présente à tous les chrétiens. Ou à toutes les personnes qui se disent chrétiennes. Et certains chrétiens vont l'exprimer comme ça. Ils font une distinction, ce ne sera pas avoué, d'accord? Ce ne sera pas avoué, mais c'est ça la distinction. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur dans le sens qu'il est venu mourir sur la croix pour mes péchés. Donc, Jésus est mon sauveur. Et pour tout ce qui est des questions éternelles, je fais confiance. Maintenant, pour ce qui est de s'occuper de ma vie, ça, je m'en occupe, par exemple. Jésus est mon sauveur. Il est mort sur la croix. Moi, je ne pouvais pas faire ça. T'sais. Jésus, les affaires spirituelles, il est bon là-dedans. Puis, non, il est fort. Il est fort. T'sais. Mourir sur une croix pour mes péchés, ça, je n'aurais pas pu le faire. Maintenant, pour ce qui est de ma vie personnelle, prendre des décisions dans ma vie, ça, je vais m'en occuper de cette partie-là. Ça, c'est mon morceau. Parce que Jésus, des fois, il est un petit peu flyé. T'sais. Ça va mal au travail, situation difficile. Aime tes ennemis. Non, c'est correct, Jésus. Et en définitive, ce qu'on est en train de dire, c'est « Regarde Jésus, occupe-toi de mon âme, ça là-dedans, les affaires flyées, t'es comme, t'es bon là-dedans. Pour ce qui est de ma vie, je m'en occupe, ok, c'est cool. Toi, tu t'occupes de mon âme, moi, je m'occupe de ma vie. » En québécois, on appelle ça une tête de cochon. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est la bonne expression. Ma mère me disait ça quand j'étais petit. Fais pas ta tête de cochon. Voyez-vous, le christianisme, c'est être un disciple de Jésus-Christ. Alors, je dois vous le dire, si généralement votre vie est conduite comme ça, moi, c'est correct, je fais confiance à Jésus pour mon éternité, mais généralement, dans ma vie, ce n'est pas son conseil, ce n'est pas sa parole, ce n'est pas sa volonté qui est en train de se faire. Ça, je m'en occupe de cette partie-là. Je suis assez grand, je suis capable de prendre les choses en main. Je dois vous le dire, probablement que vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien, je n'ai aucune assurance sur votre éternité. Je vais vous le dire comme ça. Je ne suis pas là pour vous dorer la pilule, les amis. Si Jésus-Christ n'est pas généralement votre conseiller, votre guide, si son autorité est limitée à votre éternité, mais pas à votre vie de tous les jours, vous n'êtes pas chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître. Un disciple de Jésus-Christ a Jésus-Christ pour maître. C'est ça l'idée, hein? Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute le maître, qui suit les conseils du maître, qui essaie d'imiter le maître. Moi, je suis disciple de Jésus-Christ. Et donc, lorsque j'ai des décisions à prendre, lorsque des situations qui se présentent dans ma vie, qui sont difficiles, qui produisent en moi de la peur, des inquiétudes, de la culpabilité, de la confusion, où est-ce que je vais me tourner? Mais si mon attitude, c'est de dire, regarde, c'est correct, Jésus, oui, je sais, c'est l'éternité. Puis quand quelqu'un commence à ouvrir la Bible, il dit, regarde, je sais, je suis capable de prendre mes décisions, OK? J'assais, je ne suis pas nono, là. Je peux faire mes choix par moi-même. Je peux faire ma tête de cochon. Et probablement que tu n'es pas chrétien. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que les chrétiens sont parfaits. Et que les chrétiens font toujours la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le psaume 25 est le psaume par excellence. Parce que David le dit, hein? David, s'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, ne me traite pas en te rappelant toutes les fois où j'ai fait ma tête de cochon. Oublie toutes mes fautes, oublie ça, oublie mes erreurs, pardonne-moi. Je n'ai pas toujours suivi tes conseils, j'ai besoin de ta direction. Alors voyez-vous, je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien est toujours en train de faire la volonté de Dieu à perfection. Non, on est pécheur, on le demeure jusqu'à la fin. Mais généralement, dans ma vie illustre le fait que j'ai pris cette décision. Jésus-Christ est le Dieu de mon salut. Jésus-Christ est le Dieu de mon salut. Un des plus beaux passages dans l'Ancien Testament pour nous annoncer la venue de Jésus-Christ se trouve dans Ésaïe 9:5, une prophétie qui nous parle d'un enfant qui s'en vient. Je vais juste vous lire le verset rapidement. « Car un enfant nous est né. » D'accord, c'est un texte qui annonce la venue de Jésus-Christ. « Et la domination reposera sur son épaule. » Voici comment on l'appellera. « Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Si Jésus-Christ n'est pas ton conseiller dans les situations que tu traverses, probablement que tu n'es pas chrétien. Parce qu'il est censé être constamment ton conseiller, te tourner vers lui. Et voici la décision que David a prise. Et peut-être que c'est la décision que toi tu vas prendre pour devenir chrétien. Tu as compris que Jésus était mort sur la croix pour nos péchés, et ça c'est une partie qu'on n'est pas capable de faire. Et peut-être, par la grâce de Dieu, Dieu te montre ce matin que non seulement tu es incapable de te sauver par toi-même pour l'éternité, mais tu es incapable de diriger ta propre vie en marchant dans la sainteté, en faisant les bons choix, parce que tu es comme moi. Tu es pécheur. Tu es pécheur, puis à tout moment donné, tu vas faire ta tête de cochon. Puis tu as fait des gaffes, puis tu payes pour, puis ça te suit. Et donc, peut-être que tu es prêt à prendre cette décision-là ce matin. Je comprends là, ce matin, je veux devenir un disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire non seulement qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, mais il va aussi devenir mon maître. Je vais le suivre, je vais regarder à lui, je vais ouvrir sa parole pour pouvoir avoir son conseil. Et quand je vais vivre des situations difficiles, constamment je vais pouvoir m'arrêter et dire, je me tourne vers toi, je me confie en toi. Ce n'est pas moi qui va, excusez-moi, runner le show. C'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas me diriger. C'est toi qui vas être mon conseiller. David vivait des situations difficiles, ça produisait toute une gamme d'émotions en lui, de la confusion, des états d'âme, mais il avait pris la bonne décision, celle de se confier en Dieu. Et ça, ça l'a amené à prendre toutes sortes d'actions, je vais les résumer rapidement. Quand j'ai pris la décision que je me confiais en Dieu quotidiennement dans toutes les situations de ma vie, voici le genre d'action que je vais prendre et je vais en surprendre quelques-uns avec la première. La première action que David faisait, c'est qu'il priait souvent. David priait souvent. « J'élève vers toi mon âme. » Et il y a des gens qui pensent que la prière, ce n'est pas de l'action. C'est énormément d'action, prier. Non seulement parce que Dieu répond, mais simplement m'arrêter pour prier dans une situation. Le psaume commence avec « J'élève vers toi mon âme. » Je suis en train de vivre une situation à 2h38 au boulot. Je vis une situation qui produit en moi de la colère, de la frustration, des inquiétudes. J'ai le goût de réagir. Mais je décide à ce moment-là de m'arrêter et d'aller dans la prière pour élever mon âme vers Dieu et demander à Dieu d'être mon conseiller dans cette situation. C'est tellement de l'action que mes palpitations cardiaques augmentent. Il y a énormément d'action à se retenir à ce moment-là. Parce que j'ai la tentation de prendre les choses en main, d'intervenir, de régler ça à ma manière. Et simplement de m'arrêter à ce moment-là. Et de dire, Seigneur, c'est toi qui règnes. Je n'agirai pas comme les gens autour de moi. Je ne réglerai pas selon mes impulsions du moment, mais j'élève à toi mon âme. Et ceux qui pensent que ça, ce n'est pas de l'action, allez lire la vie de David. Ceux qui vont me dire que David n'était pas un homme d'action, j'aurais aimé vous voir sur un champ de bataille contre lui. À la guerre devant David, ça aurait été cute à voir. Non, David, c'était un homme de prière, tu sais, il avait une harpe, puis il jouait dans des champs. Tu sais, c'était pas un homme d'action, David. Yeah, j'aurais aimé ça vous voir devant lui sur un champ de bataille. Goliath pensait ça aussi, c'était un petit gars, tu sais, qui jouait avec ses Fisher-Price. Il est mort. Il est mort parce qu'il pensait que David n'était pas un homme d'action. Mais David, c'était un homme d'action, c'était un homme de prière. parce qu'il savait qu'il y a des moments où la bonne action à prendre, c'est de prier pour élever mon âme vers Dieu plutôt que d'agir charnellement sur l'impulsion du moment. Et David priait souvent. Et plus il était inquiet, plus il priait. Je parlais avec un frère ce matin, je disais, prier comme David, être expansif, dire les choses que je vis. Pas juste comme une espèce de mantra. Je m'inquiète de rien, je fais confiance à Dieu. Je m'inquiète de rien, je fais confiance à Dieu. Je m'inquiète de rien, je fais confiance à Dieu. Je m'inquiète de rien, je fais confiance à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas un mantra, la prière. Regardez comment David prie. Je suis malheureux, je suis tanné, je suis écœuré, j'ai le goût de prendre mes propres ressources, j'ai le goût de m'en sortir. Quand est-ce que tu vas intervenir? Je suis mal pris, expansif, j'en sors. Et ça, c'est de l'action. Et c'est ce que David fait ici. Et ce n'est pas juste là, comme ça fait du bien de le dire, c'est pas ça. C'est que je me tourne vers Dieu, je prends le temps de répandre mon cœur devant Dieu. Lui dire toutes mes inquiétudes, tous mes doutes, jusqu'à ce que je puisse dire sa gloire et sa grandeur et célébrer sa puissance. David priait souvent. Il se tournait vers Dieu et sa parole. David se tournait vers Dieu et sa parole. Constamment, il revient. Il parle de la loi de Dieu, il parle de l'alliance de Dieu. Il gardait l'alliance de Dieu dans son cœur. Pourtant, David connaissait la parole de Dieu. Mais quand tu es confus, là, quand tu es en train de vivre une situation qui est difficile, la parole de Dieu n'est pas là. Elle n'est pas dans ta bouche, il n'y aurait pas de confusion. Et donc, David revenait constamment à la parole de Dieu. Il se tournait vers Dieu pour chercher le conseil de Dieu. « Seigneur, quels sont les préceptes de ta parole qui s'appliquent ici? Lui est en train de travailler ça contre moi. Lui est en train de faire ça. Je me sens coincé, je me sens pris. J'ai les deux pieds dans un filet. » Et il se tournait vers Dieu constamment vers sa parole. C'est pratique, c'est simple comme conseil. Lis ta Bible. Lis ta Bible. T'es confus, tu lis ta Bible une fois par année. C'est sûr que t'es confus. Tu ne sais pas où donner de la tête. Tu ne cherches pas le conseil de Dieu. C'est certain que t'es confus. Lis ta Bible tous les jours. Va chercher des versets qui s'appliquent à ta situation. Mémorise-les. Médite-les. Tourne ton cœur vers Dieu, vers la loi de l'Éternel, puis dis, « Seigneur, montre-moi ce qui s'applique dans cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? » Et ce ne sera pas toujours des réponses simples. En fait, rarement, Dieu va vous dire, « C'est la maison bleue qu'il faut que tu achètes plutôt que la rose. » Tu sais. Il le fait quelques fois dans la Bible, écrit sur des murs avec du feu. Mais ça, c'est rare. C'est beaucoup plus, « Est-ce que mon cœur est reposé en Dieu? » Est-ce que mon cœur est empreint des pensées de Dieu? Est-ce que mon cœur actuellement sait que Dieu est souverain, que Dieu est sage, que Dieu est au contrôle, que Dieu est en train de diriger? Est-ce que mon cœur sait que si je me confie en lui, il va me sortir de cette situation? Quels sont les principes de sagesse qui s'appliquent ici? Qu'est-ce qui doit me diriger? Est-ce qu'il y a des conseillers qui peuvent venir autour de moi? C'est beaucoup plus de cet ordre-là. David a besoin d'un guide. Mais Dieu ne va pas commencer à identifier celui-là, tu le tues, celui-là, tu le gardes en vie. Ça, c'est un traître, mais quelqu'un l'a tué. Comprenez? Ce n'est pas cette direction-là qu'on parle ici. Là. C'est « Seigneur, garde mon cœur et conduis-moi afin que j'aie de la sagesse, afin que je sache être juste, être bon lorsqu'on veut me faire du mal, que je sache comment intervenir avec telle ou telle personne. Moi, je ne connais pas son cœur. Quelle attitude je dois avoir ici? Parce qu'il me semble être double, il semble jouer avec moi. » C'est de cet ordre-là dont on parle. David priait souvent, il se tournait vers Dieu, se tournait vers sa parole, prenait du temps avec Dieu, prenait du temps dans sa parole. Les cours bibliques qu'on donne, je vous assure, ce n'est pas pour le fun qu'on le fait. Ah, on aime ça enseigner, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que c'est une église baptiste, puis tu sais, ici c'est des cours, on donne des cours. Ce n'est pas ça, c'est pour avoir le conseil de Dieu en nous, avoir la pensée de Dieu en nous. Afin que lorsque les situations arrivent, j'ai des décisions à prendre, je suis informé de la pensée de Dieu. Et je suis éclairé par la pensée de Dieu. David marchait dans la crainte de Dieu. Donc, il priait, se tournait constamment vers Dieu, vers sa parole. Il marchait dans la crainte de Dieu. David craignait l'Éternel. Il y a des gens ici qui ont de la difficulté avec cette idée de craindre Dieu. Regardez verset 14. L'amitié de l'Éternel, et en fait, le mot qu'il y a là, c'est le conseil de l'Éternel. Ami dans le sens d'un conseiller. Le conseil de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est marcher avec lucidité. C'est ce qui permet à David de dire « Je suis un pécheur, Seigneur. J'ai besoin que tu pardonnes mes fautes. » David est un homme lucide. Voyez-vous, si Bastien venait devant moi, Bastien, c'est le petit blondinet tantôt qui levait toujours sa main, mon fils, il y a 10 ans. Si Bastien venait devant moi et il disait, je lui disais, Bastien, tu vas aller ramasser ta chambre. Non. Il y a un problème de lucidité. Je pèse 100 livres de plus que toi. C'est quoi que tu n'as pas compris? Tu sais, je suis plus gros que toi. C'est moi qui paye ton repas. C'est moi qui paye ton logement. Tes cadeaux à ta fête, c'est pas mal papa qui va les payer. Va faire ta chambre. C'est juste une question de lucidité. Et si Bastien, malgré tout l'amour qu'il sait que j'ai pour lui, n'a pas une certaine crainte de son papa, je vais peut-être me poser des questions à savoir s'il y a toutes les cellules en fonction. C'est la même chose avec un policier. Tu étais devant un policier, le gars, il a un pistolet. Tu sais, il a un gun. Il a une batch, puis la loi est avec lui. Non! Donnez-y des pilules. Faites quelque chose, tu sais, placez-le à quelque part. Lucidité. Mais là, on parle de Dieu. On parle de Dieu, celui qui tient tous les eaux de la terre dans sa main. Ah, Dieu, je vais m'arranger avec lui de l'autre bord. C'est moi qui rends le chaud dans ma vie. C'est quoi? Lucidité. C'est ça la crainte de Dieu. C'est rien de plus que ça. Je sais combien il m'aime. Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Ça, c'est son amour. Mais c'est Dieu. C'est pas mon pote. Moi, quand je saute dans les bras de mes chums, mais des fois, on finit en se chamaillant. J'ai jamais essayé avec Dieu. Il y a un gars qui a essayé, puis après ça, il a fait ça comme ça toute sa vie. C'est Jacob. Vous comprenez? Je me chamaille pas avec Dieu. Je me chamaille avec mes potes. Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. J'ai une certaine crainte de Dieu. Et David avait cette crainte de Dieu. Il marchait tous les jours en sachant, il est Dieu. J'aurais le goût de faire les choses à ma manière, mais lui, il est Dieu. Et je vais marcher dans la crainte de Dieu. Non seulement il est grand, il est puissant, mais il connaît mon cœur, il connaît mon histoire. Il connaît tous mes secrets, tous mes mensonges, toutes mes tromperies, toutes mes fourberies. Et s'il faut qu'il me traite selon mon cœur, ça ne marchera pas bien. Alors je vais avoir une révérence, une crainte de Dieu. Je vais chercher son conseil. David priait souvent, il se tournait vers Dieu constamment dans sa parole. Il marchait humblement avec la crainte de Dieu. Et David marchait avec foi. Il se confiait en Dieu. Il avait confiance que l'Éternel allait le sortir de ces situations qu'il vivait. Vous vivez actuellement différentes situations. Il y en a qui sont un peu stressantes, un peu difficiles. Il y en a qui commencent l'école, à l'université, n'importe quoi, puis il va y avoir de l'adaptation. Un peu de stress, un peu d'inquiétude. D'autres vivent des situations franchement presque invivable. Sur l'échelle des inquiétudes, on ne parle pas d'inquiétude, on parle d'angoisse, on parle de détresse. Nous vivons tous des situations et on va en vivre cet automne. On rentre dans la période de l'année la plus active, la plus stressante. Les situations vont venir plus vite qu'on est capable de les prendre. Nous allons vivre des situations qui vont produire en nous toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'états d'âme, des peurs, des fois de la culpabilité, parce qu'il y a des choses qui vont revenir à la surface, des doutes, de la confusion, des sentiments de solitude. J'ai une décision à prendre quotidiennement dans ces situations. Est-ce que je vais réagir selon mes impulsions du moment, comme les gens autour qui ne suivent pas le conseil de Dieu, ou est-ce que je vais élever quotidiennement mon âme vers Dieu? Une fois que j'ai pris cette décision-là, je vais aller régulièrement, constamment, souvent dans la prière, souvent dans sa parole pour chercher ses conseils. Je vais marcher humblement comme un pécheur qui craint l'Éternel, qui a besoin du conseil de Dieu. Et je vais faire confiance à celui qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour mes péchés, sachant qu'il va prendre soin de moi. On va prier ensemble. Seigneur, certaines personnes ici ce matin ont besoin de prendre une décision. Prendre la décision de se confier en toi. Prendre la décision d'arrêter de suivre leur chair, de suivre les impulsions internes, de se comporter comme des gens qui ne connaissent pas le conseil de Dieu. Je te demande ta grâce. Je te demande ta grâce sur ces personnes afin qu'elles prennent en ce moment la décision de faire comme David. De te faire confiance, non seulement pour leur éternité, mais pour leur vie ici-bas, actuellement, dans des situations bien précises qui peuvent être nommées, Seigneur. Amène ces décisions dans notre cœur. C'est toi, Seigneur, qui produis cette volonté, ce vouloir en nous. Fais-nous cette grâce de tourner les regards vers toi, Seigneur. Accorde-nous la joie, Seigneur, dans les moments de trouble et d'inquiétude, d'élever notre âme vers toi. Que nous devenions, Seigneur, des hommes et des femmes d'action comme David, qui savent quand parler, quand se taire, quand prier. Quand s'arrêter plutôt que de réagir pour aller dans la prière et chercher ta face, élever notre âme vers toi. Aide-nous, Seigneur, à retourner à ta parole. Que ta parole soit là pour animer nos pensées, que notre pensée soit conforme à la tienne, que nous soyons empreints de cette sagesse que tu nous as donnée dans ta parole, Seigneur. Qu'elle vienne s'appliquer dans chacune de nos vies. Parle-nous, montre-nous ta vérité, pas celle que nous voudrions suivre. Ton chemin, ta voie. Enseigne-nous, Seigneur, à marcher dans la crainte de Dieu, avec une franche lucidité, sachant que tu es Dieu, que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs, graciés à cause du sang de Christ. Et Seigneur, nous voulons te remettre cet automne qui est devant nous. Tu es le Dieu de mon salut, Seigneur. Viens donner la victoire à Yannick, à l'Église de l'Espoir, Seigneur. À chacun d'entre nous. Viens, Seigneur, et règne dans nos vies cet automne. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. On va chanter ensemble.